L'heure du journal de la rédaction avec vous, Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Nicolas.
C'est un nouveau cri d'alerte, ou quand la grande barrière de corail se trouve frappée par un phénomène record de décoloration.
Oui, les récifs australiens subissent actuellement le pire épisode de blanchissement jamais observé. Survivront-ils à ce bouleversement exceptionnel? On posera la question dès le début du journal. L'actualité à l'étranger, toujours et encore dominée par les tergiversations autour du calendrier, plus encore du niveau de la riposte qu'Israël entend mener après l'attaque de l'Iran. Et ce malgré les appels internationaux à la retenue, y compris d'ailleurs de la part de son allié américain qui a lui annoncé de nouvelles sanctions contre la République islamique. On se rendra par ailleurs en Croatie à l'occasion d'élections législatives au cours desquelles le président populiste a choisi de défier le premier ministre nationaliste. Enfin, l'actualité en France. Nous serons en direct de Vitry où ce matin a débuté l'évacuation du plus grand squat de la métropole. Et puis avec Emmanuel Laurentin, producteur du Temps du Débat, mais aussi ambassadeur de la grande collecte des archives du sport, on parlera histoire du sport à 100 jours, tout pile de la cérémonie d'ouverture des JO. Souvent considérée comme la plus grande structure vivante du monde, celle qui sur plus de 2300 kilomètres abrite une biodiversité d'une richesse exceptionnelle, la grande barrière de corail au large de l'Australie subit aujourd'hui le pire épisode de blanchissement jamais observé. Les récifs ont énormément souffert, notamment au cours de l'été austral, le deuxième plus chaud jamais observé dans la région, au point que certains endroits sont même devenus désormais de véritables cimetières marins. Véronique Roberotte, bonjour.
Bonjour.
Alors ce nouvel épisode de blanchissement massif est le deuxième en réalité en 10 ans. La cause du mal est connue, toujours la même, le réchauffement des océans. Nous vous en parlions en début de semaine, sous l'effet du dérèglement climatique. Et ce phénomène, Véronique, n'est pas cantonné aujourd'hui à l'Australie.
Non, il est mondial et l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique estime que cet épisode de blanchiment des coraux a débuté en février 2023. Ces scientifiques qui ont compilé les observations de nombreuses régions du monde et les relevés aussi de température, de surface des mers entre février 2023 et avril 2024 parlent d'un épisode très puissant qui survient moins de 10 ans après un épisode de mortalité importante déjà des coraux dans le monde. C'était en 2016. La chaleur de 2016 avait provoqué la mort de 30% des coraux de la Grande Barrière australienne, une des richesses du monde. Les 70% restants avaient besoin de temps pour se régénérer. C'est possible. Les coraux peuvent se régénérer sur plusieurs années si les températures baissent. Elles peuvent s'adapter aussi. En auront-ils la possibilité avec ce nouvel épisode qui ne laisse donc aucun répit? Il est trop tôt pour le dire, mais on peut imaginer le pire puisque le réchauffement des océans se poursuit à une vitesse folle, inexorable.
Et ce qui est impressionnant cette fois-ci, Véronique, c'est bien la globalité du phénomène.
Ouais, c'est son étendue géographique. La mer des Caraïbes, de vastes zones du Pacifique Sud que compte la Polynésie française, le Brésil, le Mexique, la mer Rouge, les Seychelles, Mayotte, la côte ouest de l'Indonésie, les États-Unis, du côté de la Floride, la cause, eh bien, les vagues de chaleur marine qui, sous l'effet du changement climatique, font entrer les récifs de la planète dans une zone létale. Les experts du GIEC, dans un rapport spécial sur l'océan publié en 2019, estimaient que 70 à 90% des coraux pourraient disparaître avec une augmentation des températures de 1,5 degré. On s'en approche sûrement. Et pas doucement.
Merci Véronique Roberotte.
Après l'attaque sans précédent lancée par l'Iran contre son territoire, Israël mûrit toujours sa riposte.
Oui, comme une illustration de plus de ce cycle funeste de la vengeance perpétuelle qui alimente inlassablement la spirale du pire au Moyen-Orient. L'État hébreu n'entend pas se satisfaire de la victoire éclatante de sa contre-attaque militaire, mais veut faire payer à la République islamique son affront. Sauf qu'à Washington, l'administration américaine, alliée indéfectible de Tel Aviv, a vite fait savoir qu'elle ne voulait pas d'une guerre étendue avec l'Iran et qu'elle ne participerait pas à une éventuelle riposte israélienne. En revanche, les États-Unis se sont dit prêts à renforcer davantage encore les sanctions contre l'Iran, ce qui a également laissé entendre des hier l'Union européenne. Étienne Monin, bonjour.
Bonjour.
Reste évidemment à savoir, Étienne, si le fait d'élargir donc le champ des sanctions déjà en place aura une quelconque efficacité.
Oui, parce que l'Iran est le pays sans doute qui subit le plus de sanctions. Le régime s'est régulièrement renforcée ces dernières décennies. Ça commence très tôt avec les États-Unis qui sont en conflit ouvert dès 1979. Le point culminant arrive en 2006 avec les doutes de l'Agence internationale de l'énergie atomique sur le programme nucléaire iranien. Ça se détend 9 ans plus tard avec l'accord de Vienne. Puis la relation se corse en 2018 avec Donald Trump qui relance le train de sanctions complété en 2022 au moment de la vague de répression. Concrètement, l'ONU, les États-Unis, l'Europe ont appliqué plusieurs types de mesures. Des avoirs ont été gelés, des interdictions de territoire ont été prononcées. Cela a touché des sociétés, des personnalités. Les gardiens de la révolution sont classés sur la liste des organisations terroristes des États-Unis. Les échanges financiers internationaux ont été bloqués. Mais la sanction la plus efficace sur le plan économique reste l'embargo pétrolier. L'impact se mesure essentiellement sur la population. L'inflation a grimpé de 40% depuis 2018 et le taux de pauvreté atteint 30% d'après la Banque mondiale. Pour autant, le programme de construction de drones et de missiles n'a pas été gelé. C'est la nouvelle cible des États-Unis et de l'Europe. Des sanctions ont déjà été décidées il y a quelque temps par l'Union européenne. Des drones iraniens qui ont été vendus aux Russes comportent des composants qui viennent de l'Europe, des États-Unis et de l'Asie. Certains sont dans le commerce, ce qui va sans doute compliquer ce contrôle. Au minimum, donc, ce nouveau régime de sanctions permet aux États-Unis d'offrir une réponse concertée à Israël pour espérer contenir la riposte et éviter l'embrasement régional.
Merci Étienne Monin.
Un duel au sommet à présent pour des élections législatives insolites.
Depuis ce matin, les Croates sont appelés aux urnes pour départager deux ennemis jurés, le président et son premier ministre. À gauche, tout d'abord, le très populaire Zoran Milanovic, 57 ans, issu de la social-démocratie, mais aujourd'hui davantage tourné vers le populisme, devenu un habitué des provocations, sinon de la transgression, puisque le chef de l'État a même fait fi de l'avis des juges qui estimaient sa candidature inconstitutionnelle. À droite, ensuite, le très conservateur Andrej Plenković, 54 ans, accusé de corruption, de népotisme par ses opposants. Et au milieu, la droite nationaliste qui se rêve faiseur de roi. Bref, un parfait tableau de la société croate, aujourd'hui divisée. Reportage à Zagreb de notre correspondant dans la région, Louis Seyé.
Seuls quelques stands installés sur les grandes places de Zagreb rappellent la tenue de ces législatives 2024. Mais sur les marchés de la capitale croate, la campagne est dans toutes les têtes. À 28 ans, Espi n'en peut plus de...
La corruption, c'est le plus gros problème en Croatie aujourd'hui. Surtout avec le HDZ au pouvoir. Ils sont tout le temps empêtrés dans des affaires. Mais beaucoup de gens continuent de voter pour eux.
Au cours des deux mandats du Premier ministre Andrei Plenković, 30 ministres ont dû démissionner suite à des affaires révélées par la presse. Policier de 59 ans, Jordan est séduit par le slogan de l'opposition social-démocrate « Des rivières de justice arrivent ».
Il faut se libérer de Plenković et de ses bandits, peu importe qui viendra après, ça ne peut pas être pire que maintenant. Sans l'argent de l'Union européenne, le HDZ n'aurait rien fait pour le pays.
Le candidat du Parti social-démocrate n'est autre que l'actuel président de la République, Zoran Milanovic. Une candidature anticonstitutionnelle et un risque pour la démocratie croate, selon l'IRK. Cette retraitée votera pour le Parti conservateur au pouvoir.
Milanovic aurait dû démissionner de ses fonctions de président et se présenter comme tous les autres candidats, en participant normalement à la confrontation politique.
La campagne s'est transformée en un duel de personnalités entre le Premier ministre et le Président. Le HDZ de pouvoir mène la course, mais les sociaux-démocrates semblent mieux placés pour former une majorité parlementaire.
Un reportage dans les rues de Zagreb signé Louis Seyé. Les électeurs des îles Salomon votent eux aussi aujourd'hui pour un scrutin aux allures de défis logistiques. Tout d'abord puisque l'archipel du Pacifique compte plusieurs centaines d'îles volcaniques et autres atolls coralliens. Et puis cette élection est par ailleurs la première depuis que le pays a rompu ses liens diplomatiques avec Taïwan. Or le premier ministre sortant et candidat s'étant engagé à renforcer ses relations avec Pékin en cas de victoire. À l'inverse de tous ses principaux adversaires, l'issue de ce scrutin a priori anecdotique pourrait en réalité influer sur la sécurité de toute la région. 4 siècles d'histoire commerciale partie en fumée, l'incendie qui s'est déclaré hier dans l'ancienne bourse de Copenhague, pour des raisons d'ailleurs toujours inconnues et certes désormais maîtrisées, mais il a dévasté une très grande partie de cet édifice, véritable icône nationale et joyau architectural du XVIIe siècle. Il aurait pu, j'en suis certain, nous parler de cet édifice incontournable. Mais avec lui, nous allons parler sport aujourd'hui. Emmanuel Laurentin, bonjour.
Bonjour Thomas.
Faut-il rappeler que vous présentez chaque soir à 18h20 le temps du débat sur France Culture. Nos auditeurs, en revanche, ne le savent peut-être pas. Vous êtes ambassadeur de la grande collecte des archives du sport. Et si nous avons invité aujourd'hui à 100 jours tout pile de la cérémonie d'ouverture des JO, ce n'est pas pour parler donc de ni de la flamme qui a bien été allumée, ni pour savoir si la cérémonie aura bien lieu sur la scène ou sur la pelouse du Stade de France, mais pour évoquer cette grande aventure collective à laquelle vous avez participé, la collecte de documents donc et de témoignages afin de mieux préserver la mémoire du sport en France. Comment tout d'abord est né ce projet?
Alors nous étions une petite quinzaine d'historiennes et d'historiens à parité à avoir commencé à travailler avec Paris 2024 autour de cette question. Je présidais une petite commission et la première chose qu'ont demandé les historiens et les historiennes, c'est de dire est-ce qu'on peut lancer une grande collecte du sport pour pouvoir avoir des archives? Parce qu'en fait, il y a un grand problème de reconnaissance de ce sport, du sport comme étant, disons, valide pour les historiennes ou les historiens. Les historiens et les historiennes le savent, mais beaucoup de gens qui possèdent des archives ne le savent pas. C'est-à-dire qu'on a un grand-père qui a été champion départemental de course à pied, un autre qui a été, ou une autre qui a été championne de natation. On a dans les archives, on a ces archives dans les greniers, on ne sait pas ce qu'on peut en faire et on considère que ça n'est pas si important que ça. Et donc, ces historiens et ces historiennes nous ont dit, il faut lancer une grande collecte du sport. Et c'est le service interministériel des archives de France, donc qui regroupe tous les centres d'archives en France, qui a décidé de prendre ça en charge sous la tutelle du ministère de la Culture. Et on a lancé cela. Nous sommes deux ambassadeurs et ambassadrices avec Marie-Françoise Potreau, qui est une ancienne championne cycliste et vice-présidente du CNOSF, qui tentons de mobiliser autour de cette initiative et ça marche pas mal.
Alors parmi ces archives, depuis presque 10 mois maintenant que cette collecte a été lancée, est-ce que vous avez identifié des documents précieux?
Alors des documents précieux, oui, surtout des collections précieuses, par exemple la collection des archives du Racing Club de France, ça n'est pas rien, un des plus anciens clubs de omnisports de France a été donné aux archives départementales des Hauts-de-Seine, le club de Pithiviers de rugby, on ne sait pas, peut-être qu'il y a du rugby à Pithiviers dans le Loiret, a donné toutes ses archives aux archives départementales du Loiret et tout un tas d'autres clubs, puisque maintenant nous en sommes à peu près à 177 services d'archives qui y participent et 159 collectes. Alors ce sont des petites collectes, des plus grandes collectes, etc. L'Indre-et-Loire, un peu partout, le Gers, tout le monde s'intéresse à cette question-là. Et ce sont des familles, ce sont des clubs, ce sont des fédérations qui donnent, selon les endroits, qui donnent à ces archives départementales, municipales, nationales, leurs archives, pour pouvoir justement faire le travail qui permettront aux historiennes et historiennes demain de renouveler la vision de l'histoire du sport en France.
C'est évidemment une histoire qui est du coup à l'ombre, on va dire, des records, des champions, des championnes. Ces documents rendent visibles finalement des pratiques assez ordinaires, parfois même intimes.
Alors, c'est formidable parce qu'on peut, par des photographies par exemple, savoir comment on s'habillait quand on faisait du sport dans les années 30, dans les années 50, par des collectes de documents administratifs, savoir comment on sanctionnait les sportifs qui avaient dépassé les bornes d'une certaine manière. On peut comprendre comment étaient fonctionnés les systèmes administratifs qui permettaient à ces clubs sportifs d'exister. Et surtout, on arrive à finir à comprendre comment le sport a été un fait social total pour les sociétés occidentales à partir de la fin du 19e siècle et comment elles ont, ces sociétés occidentales, trouvé les moyens trouver la place, par exemple, dans une ville pour pouvoir faire des stades, pour pouvoir faire des gymnases, etc., etc. Donc c'est une histoire qui permet de parler d'histoire sociale, d'histoire culturelle, d'histoire urbaine, d'histoire politique, évidemment, puisque la politique a beaucoup de choses à voir, et puis même aussi, parfois, d'histoire de la colonisation, puisqu'il y a évidemment tous les clubs qui ont eu des clubs surgeons, pourrait-on dire, qui sont nés dans les régions colonisées par la France. Et puis, le lien avec l'immigration, par exemple, je viens d'apprendre qu'aux archives départementales de Lyon, il y avait, aux archives municipales de Lyon, un grand travail autour de sport et immigration dans la région lyonnaise. Donc, on a beaucoup de choses qui sont à apprendre à partir de cette histoire des archives du sport, et il faut aller donner, sachez par exemple que dans le Nord, si vous êtes dans le Nord, le 22 juin, Il y aura une grande journée, justement, pour que vous puissiez aller donner aux archives départementales du Nord vos archives. Et il y aura même, à cette occasion, une démonstration d'aquatisme, un championnat du monde d'aquatisme. Qu'est-ce que l'aquatisme ? C'est la plus impressionnante des compétitions aquatiques sans eau.
Merci Emmanuel Lerotin d'être passé nous voir ce midi. Merci également à Louise Guérin pour la préparation. 18h20, le temps du débat. Ce soir, on parlera de quoi ?
Alors ce soir, on parle d'une question très importante, à savoir les dépressions postpartum pour les femmes et en particulier l'augmentation, on le sait depuis peu de temps, l'augmentation du nombre de suicides de jeunes mères. Il faut travailler presque collectivement, socialement, autour de cette question. On va en parler avec nos trois invités.
Rendez-vous pris à 18h20. Alors, les Jeux Olympiques ne se résument pas uniquement à des épreuves et à leurs champions et leurs championnes. Ils racontent aussi parfois une toute autre réalité. C'était le cas ce matin à Vitry-sur-Seine, dans la banlieue sud de Paris, où le plus grand squat de France a commencé à être évacué. L'opération était attendue en réalité depuis plusieurs jours, raison pour laquelle une partie des 450 sans-abri, pour la plupart d'entre eux en situation régulière, qui avaient trouvé refuge dans cette entreprise désaffectée du Val-de-Marne, avaient déjà quitter les lieux, et les 300 autres ont donc rassemblé comme ils le pouvaient tôt ce matin les effets de toute leur vie. Alors ce n'est pas la première fois que des camps de fortune sont ainsi démantelés à l'approche des JO. Valentin Winato, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sur place, comment s'est passée cette opération ce matin? A priori elle s'est déroulée dans le calme.
Eh bien écoutez, cela fait déjà plusieurs jours que ces centaines de personnes qui habitaient ce squat ont été prévenues. Alors ce matin, un peu avant 8h, la police s'est présentée pour déloger hommes, femmes et enfants. Une vingtaine d'enfants ici, certains ont été réveillés par les coups de bélier sur les portes fermées à clé. Alors au moment où je vous parle, derrière le grand grillage gris de cette ancienne entreprise sur le parking, des dizaines de personnes ont posé leurs affaires, des valises, des sacs plastiques remplis de leurs effets personnels. Je suis actuellement avec Romain Prunier de l'association United Migrants, bonjour.
Oui, bonjour.
Quel est le profil des habitants de ce squat ?
Ce sont pour beaucoup des réfugiés, des demandeurs d'asile, également des sans-papiers. Nombreux d'entre eux travaillent, ils ont des contrats de travail, des fiches de paye. Certains sont célibataires, d'autres sont en famille et plusieurs d'entre eux ont des enfants, dont certains qui étaient scolarisés à Vitry-sur-Seine.
Pour une bonne partie, ils travaillaient souvent en intérim ou en CD, dans le bâtiment, dans la restauration. Alors pour ceux qui acceptent, des cars sont partis depuis ce matin en direction de différentes régions, en Ile-de-France, mais aussi vers la province, à Orléans ou Bordeaux, vers des centres d'hébergement temporaire. À chaque fois, justement, des solutions temporaires, Monsieur Prunier, c'est pas l'idéal selon vous ?
Les solutions temporaires, c'est mieux que rien du tout. Néanmoins, on voit que ces personnes risquent de se retrouver à la rue à nouveau au bout de quelques semaines. On a l'expérience du squat de Unibéton à l'île Saint-Denis qui a été évacué il y a exactement un an. Ce squat, il est juste à côté du village olympique. Les personnes qui ont été expulsées, les 400 occupants, certains ont trouvé une solution durable, une petite poignée. La grande majorité se sont retrouvés au bout de quelques semaines.
Ils ne peuvent pas partir. Ils m'ont dit ce matin que ce soir et ceux qui viennent seront probablement à la rue ou chez un ami pour les plus chanceux.
Merci Valentin Winato en direct donc de Vitry-sur-Seine et pardon pour cette liaison capricieuse. Les salariés de toutes les entreprises vont-ils pouvoir bénéficier d'un compte épargne-temps universel ? Plusieurs syndicats et une organisation patronale, l'UDP, en ont discuté hier et ils s'apprêteraient à proposer donc un texte commun la semaine prochaine. Le projet prévoirait une ouverture du CETU à tous les salariés, utilisable sans condition d'ancienneté, et bien sûr ce compte épargne-temps Wafia Kenich serait transférable d'une entreprise à une autre.
Le MEDEF avait dit non, l'UDP dit oui à ce projet de compte épargne-temps universel. Un projet évoqué par Emmanuel Macron dans son programme en 2022. Du côté de la CFDT, par Laurent Berger, l'ancien dirigeant. Quant à Gabriel Attal, le Premier ministre a d'ores et déjà expliqué qu'il souhaite le mettre en place. Seulement, voilà, il y a une semaine, avant même l'échec des négociations sur l'emploi des seniors, le MEDEF avait totalement écarté le CETU, estimant le dispositif beaucoup trop contraignant pour les employeurs. L'UDP, pour l'Union des entreprises de proximité, représentant de 3,7 millions de TPE et PME des artisans, des commerçants et des professions libérales, a bravé l'avis du très majoritaire MEDEF en proposant au syndicat un texte sur le CETU qui a convenu à la CFDT, l'organisation la plus enthousiaste sur ce projet, ainsi qu'à la CFTC qui parle, je cite, de droits nouveaux pour les salariés. Une nouvelle réunion est prévue mardi prochain pour finaliser l'accord et compléter un autre texte, celui-ci relatif aux reconversions professionnelles. La CFE-CGC ne signera probablement pas ce projet de compte épargne. Le syndicat des cadres estime que le financement de ce CETU n'est pas assuré. La CGT n'a pour le moment pas adhéré au projet. Pour les organisations patronales et syndicales qui portent le CETU, l'objectif, c'est que le contenu de l'accord soit repris dans un projet de loi du gouvernement. En outre, les syndicats et l'UDP ont aussi discuté des reconversions professionnelles. Et donc, mardi prochain, c'est un double accord qui devrait être signé, l'un sur le compte épargne temps universel et l'autre sur la reconversion.
On termine avec un mot rapide du temps pour cet après-midi encore perturbé par les giboulées du centre-est au nord-est. Partout ailleurs, les éclaircies feront de la résistance. Le soleil parviendra même à s'imposer dans le sud-est, hormis sur le nord de la Corse. Quant aux températures, elles afficheront entre 10 et 22 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.